VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Louis Jubillon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Opération anticorruption au sommet de l'État au Gabon. Le limogeage le 7 novembre de Brice Lacruche Alianga, directeur de cabinet de la présidence d'Ali Bongo Ondimba, a sonné le coup d'envoi d'une vague d'interpellations sur fond de soupçons de corruption et de malversations financières. Une vingtaine de personnes ont ainsi été interpellées, dont l'ancien directeur général de la Caisse national d'assurance maladie, Renaud Alogo Akwe, mais également le directeur de la communication présidentielle, Ike Ngoni, considéré comme le bras droit de M. Lacruche. Au moins 19 civils ont été tués dans un nouveau massacre attribué au groupe armé des ADF près de Bénin dans l'est de la République démocratique du Congo, et ce alors que se tiennent depuis une semaine des manifestations violentes pour dénoncer la passivité de l'ONU et des autorités face aux tueries. Abdourahmane Dia.
Ce dernier massacre a eu lieu à 30 km au nord de Bénin, à l'entrée d'une zone appelée le Triangle de la Mort, en raison des tueries qui s'y déroulent depuis plusieurs années. Un porte-parole de la force onusienne a indiqué que la MONUSCO a envoyé hier une force d'intervention rapide avec des militaires congolais. Le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York avance un bilan de 99 personnes tuées dans la région de Beni depuis le 5 novembre. Les auteurs de ces tueries sont dans l'immense majorité des cas des membres du groupe armé d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées. En réponse à ces tueries, la région de Beni est agitée depuis une semaine par des manifestations anti-ONU qui ont fait au moins 7 morts depuis samedi. L'ONU a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort d'un manifestant congolais tué mardi lors d'un face-à-face avec des casques bleus.
Le gouvernement du président béninois Patrice Talon a ordonné à l'ambassadeur de l'Union européenne de quitter le territoire, l'accusant d'activités subversives et d'ingérence dans la crise politique que traverse le pays depuis plusieurs mois. Les autorités béninoises ont donné jusqu'au 1er décembre à Olivier Net, ressortissant allemand et chef de la délégation de l'Union européenne à Cotonou depuis mai 2018 pour partir du Bénin. La presse béninoise a fait état d'une rencontre récente entre M. Net et des représentants d'un groupe émanant du parti d'opposition de l'ancien président et opposant Boni Yayi. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire est plus que préoccupante. Plusieurs chancelleries ont déjà déconseillé le pays à leurs ressortissants et il y a quelques jours, les États-Unis ont annoncé le rapatriement prochain des enfants américains mineurs. Une situation très mal vue dans le pays. À Ouagadougou, retrouvons notre correspondant Lamine Traoré.
Il y a une semaine, la note a fait le tour des réseaux sociaux. 22 élèves quitteront le Burkina Faso avant le 1er décembre. Une décision prise par prudence, selon l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Au regard de la détérioration de la situation sécuritaire, une décision vivement critiquée et qui a poussé l'ambassadeur américain à se justifier. Hier, dans une vidéo publiée via la page Facebook de l'ambassade, le diplomate américain annonce:
j'ai dû prendre une décision difficile à propos de la configuration de l'ambassade.
L'ambassadeur André Young:
j'ai pris la décision d'envoyer hors du pays nos enfants mineurs pour mieux nous configurer à focaliser et mettre notre ambassade sur le pied de guerre pour aider le Burkina Faso à mieux confronter cette menace difficile.
Toujours hier, dans un communiqué du département d'État américain, Washington a déconseillé aux voyageurs américains de mettre les pieds au Burkina Faso en raison de la situation sécuritaire.
J'estime qu'il y a des chancelleries ou des États qui parlent à leurs ressortissants.
Rémi Danjinou, porte-parole du gouvernement:
nous avons un pays, c'est le Burkina Faso. Nous avons des forces de sécurité qui travaillent à consolider la sécurité. La situation dans certains endroits a été critique ou peut être critique, mais chaque fois, nos FDS ont été là pour relever le défi. Donc, chacun d'entre nous parle à ses populations. Et comme moi je dis, eux, ils ont la possibilité de repartir chez eux. Nous, on n'en a pas. La seule possibilité que nous avons, c'est de rester chez nous.
C'est très légitime de la part des Américains de protéger les plus vulnérables de leur présence au Burkina Faso, notamment au niveau de l'ambassade.
Il faut aller au-delà de la victimisation et se pencher réellement sur la situation sécuritaire du pays, selon Siaka Koulibaly, analyste politique.
Ils maintiennent leur coopération essentiellement militaire avec le Burkina Faso, ce qui révèle donc une double appréciation. D'un côté, les États-Unis semblent préoccupés, et du côté burkinabé, on assiste à une sorte de relativisation de la menace avec les propos du gouvernement, donc qui estiment qu'ils sont encore là et qu'ils vont faire face à la situation.
Il y a une semaine, le ministère français des Affaires étrangères avait classé tous les pays en zone rouge et orange pour les touristes occidentaux, c'est-à-dire déconseillés, sauf raison impérative ou formellement déconseillés. Il y a 6 mois, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada avaient déconseillé à leurs ressortissants de se rendre au Burkina. Au total, les attaques ont fait près de 700 morts au Burkina Faso depuis début 2015, selon un comptage de l'AFP, et environ 500 000 déplacés internes et réfugiés, selon les Nations Unies. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a appelé mercredi le Mali et le Burkina à agir plus au plan politique pour établir la stabilité sur des territoires secoués par les violences djihadistes et intercommunautaires. Un accord de paix avec les rébellions qui s'étaient soulevées en 2012 a été signé en 2015, mais son volet sur le désarmement des groupes rebelles et leur intégration dans les forces de défense maliennes peine à être appliquée. Jean-Yves Le Drian s'est également inquiété de la manière dont la désinformation, singulièrement au Burkina et au Mali, se fait. Les troupes étrangères au Sahel, notamment celles de la force française Barkhane, font face à un rejet apparemment grandissant chez les habitants du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le candidat du parti historique et dominant en Guinée-Bissau est arrivé nettement en tête du premier tour de la présidentielle, offrant une perspective de cohésion cruellement nécessaire dans un pays miné par la pauvreté et l'instabilité. Domingos Simoes Pereira, 56 ans, chef du gouvernement en 2014-2015, dévance largement avec 40,13% des voix un autre ancien premier ministre, Oumaro Sissoko Embalo, 47 ans, à la tête du gouvernement 2016 et 2018, selon les résultats communiqués mercredi par la commission électorale. Ce sont donc deux produits du système qui vont concourir à la succession du président José Mario Vage lors du second tour prévu le 29 décembre. Les Namibiens, eux, ont voté hier lors d'élections générales appelées à confirmer la mainmise sur le pays du parti au pouvoir depuis 1990, malgré la grogne croissante de la population contre la crise et la corruption. Face à une opposition désunie, le président sortant, Gengob, 78 ans, et son organisation du peuple du sud-ouest africain, la SWAPO, semble assurer de rempiler pour 5 ans en dépit d'un bilan des plus contrastés. Le président Gengob a été le premier à voter à l'école primaire Mandoumé, à Windhoek, la capitale. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, s'en ira au Maroc la semaine prochaine, un partenaire essentiel dans la stratégie diplomatique des États-Unis dans la région qui inclut la normalisation des relations avec Israël. Le secrétaire d'État sera le plus haut responsable américain à se rendre au Maroc depuis l'élection de Donald Trump. Après son arrivée à Rabat le 4 décembre, Mike Pompeo va s'entretenir avec le roi Mohamed VI, a précisé le département d'État.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Hors du continent, Pékin a réagi avec colère aujourd'hui à la promulgation par le président américain Donald Trump d'une loi soutenant les manifestations pro-démocratie à Hong Kong, qualifiant ce texte d'abomination absolue et menaçant Washington de représailles en pleine guerre commerciale entre les deux pays. Pour la deuxième fois en l'espace de 4 jours, l'ambassadeur des États-Unis à Pékin, Thierry Bronstad, a été convoqué au ministère chinois des Affaires étrangères qui a appelé Washington à ne pas mettre en œuvre le texte incriminé. La résolution approuvée la semaine dernière par le Congrès et promulguée hier par M. Trump dissimule de sinistres intentions, avait auparavant dénoncé la diplomatie chinoise, évoquant des représailles sans préciser lesquelles. Les autorités locales de Nasiriyah en Irak ont annoncé aujourd'hui avoir décrété un couvre-feu dans la ville du sud, foyer historique de la révolte en Irak depuis des décennies, après la mort d'au moins 13 manifestants que les forces de l'ordre tentent de déloger de deux ponts. Ces violences interviennent au lendemain de l'incendie par des manifestants du consulat du grand voisin iranien, très influent en Irak, dans la ville sainte de Najaf, plus au nord, et alors que Bagdad a dépêché des commandants militaires auprès de plusieurs gouverneurs du sud du pays pour restaurer l'ordre. Et puis à l'occasion du 3e anniversaire de l'accord de paix avec les FARC en Colombie, Carlos Ruiz, représentant de l'ONU dans le pays, prévoit 10 à 15 ans pour que ce pacte historique avec la plus ancienne des guérillas en Amérique soit appliqué dans sa totalité. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis pour un nouveau journal. À tout à l'heure et bon après-midi à tous. Bonne fête de Thanksgiving.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.